micros. Dis-lui de te parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, nous bénissons ton nom une fois de plus. Chaque fois que nous écoutons ta parole, Seigneur, nous sommes dans la joie. Parce que nous savons que cette parole, Seigneur, est plus que tout ce que le monde peut nous offrir. Te prions, Seigneur, de nous sanctifier par elle, de nous bénir, Seigneur, par cette parole. Et nous te recommandons l'instrument que tu utilises ce matin, Seigneur, afin de nous parler par lui. Bénis-les, bénis ta parole sur ses lèvres et bénis ton assemblée. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. L'orateur de ce jour, qui ne le connaît pas? Il y a une main? Il y a une autre? Donc beaucoup d'entre nous le connaissent. Il s'agit du pasteur Gabriel Oleko. Il a déjà prêché ici, je crois, deux fois déjà. Il est pasteur dans la région parisienne. Il est de passage et il va nous parler de la part de Dieu. Amen. Nous voulons l'accueillir dans le merveilleux nom de Jésus. Merci, pasteur.
Merci beaucoup pour votre accueil. Vous allez bien? Bonjour. En tout cas, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui et ensemble de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je remercie les docteurs Marcel et Cécile pour la grâce. Merci papa, maman, pour votre grâce, votre joie de m'accueillir et la grâce de parler du haut de cette estrade. Vous avez les salutations des Parisiens qui sont dans le froid et ici il fait chaud. C'est bien, n'est-ce pas? Ah, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous inviter à ensemble lire avec moi le premier texte d'aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Philippiens. Philippiens, j'espère que vous avez votre Bible et que chacun d'entre nous, ce matin, va profiter de ce temps de partage pour ensemble entendre ce que le Seigneur veut nous partager. C'est l'apôtre Paul qui parle dans l'épître de Philippiens, chapitre 3. Alors c'est ça le bonheur de la technologie. N'ayant pas Internet, je ne vois pas ma Bible. Merci. La prochaine fois, je viendrai avec une Bible physique. Hein. Excusez-moi. C'est bien la technologie, mais c'était pour économiser les colis, les kilos dans l'avion. Donc je me suis dit, la Bible pèse lourd. C'est le dialogue entre Paul qui parle à Saint-Tichet et Vaudy. Nous sommes au chapitre 3. C'est au chapitre 3, dans la version, votre version est laquelle? C'est Paul qui parle à Évodie, il dit au chapitre 3, c'est pourquoi très chers frères et sœurs, dans chapitre 4, pardon. Il dit, c'est pourquoi, très chers frères et sœurs, que je désire. Donc, je lis à partir du verset 1, chapitre 4, pardon, excusez-moi pour ce retard. Que je désire tant recevoir, vous êtes ma joie et ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2, j'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix des dieux qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris de moi, reçu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et que le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Le thème que je propose ce matin, c'est comment gérer les conflits, plaidoyer pour le vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Je crois que la parole de Dieu nous invite à cela, mais avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole d'aujourd'hui, je te rends grâce pour ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Seigneur, merci parce que tu nous invites à vivre ensemble en tant qu'Église, à vivre ensemble en tant que Congolais, à vivre ensemble en tant que peuple de ce monde, à vivre ensemble en tant que frères dans le Seigneur, mais aussi frères en l'humanité. Et je prie que ce matin, Seigneur, tu puisses vraiment bénir ta parole dans notre cœur. Accorde-moi la grâce de la transmettre et permets que quelqu'un ce matin ne reparte pas d'ici tel qu'il est arrivé. Et s'il y a lieu de régler certaines choses, que cela soit fait par ta direction. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comment gérer les conflits? Plaidoyer pour le vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. C'est la parole que nous avons dans ce texte et surtout le verset 2 qui va être le cœur de notre méditation de ce matin, là où Paul interpelle deux sœurs dans le Seigneur. Il leur dit, j'encourage Évodie ou j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Et verset 3, l'apôtre se tourne vers son collègue, il dit, toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi que Clément et mes frères, mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. C'est vrai, quand on est chrétien, on est parfois dans la surprise de se dire, mais à l'église, tout doit aller bien. Tout doit bien se passer parce que nous sommes nés de nouveau, nous aimons Jésus, nous sommes convertis, nous marchons avec lui. Et donc, on est comme dans la projection d'un monde idéal, d'un endroit où tout doit être parfait. Et dès qu'il y a irruption, il y a arrivée d'un problème, d'un conflit, chacun campe dans sa position et a du mal à faire des progrès vers l'autre. L'apôtre Paul parle à deux femmes qui ont travaillé avec lui, deux femmes qui avaient fait l'épreuve d'être des gens engagés dans le ministère, des femmes totalement dédiées à Dieu pour la cause de l'évangile. Et d'ailleurs, on l'a vu, l'apôtre va reconnaître leur implication dans son ministère et de quelle manière ces femmes ont travaillé à ses côtés. Et puis voilà, arrive un problème, arrive ce conflit. Nous n'avons pas la nature, la Bible ne nous donne pas les détails, mais l'incident était suffisamment grand au point que l'apôtre doit intervenir parce que le comportement affiché par l'une comme par l'autre devenait un frein pour l'Évangile et créait un malaise dans la communauté, suscitait une souffrance dans le cœur, pas seulement de l'apôtre, mais aussi dans le cœur de l'Église, parce que l'Église voyait ce mauvais spectacle des deux personnes qui servaient fidèlement, qui avaient un témoignage, commençaient à ne pas probablement s'adresser la parole, mais ça c'est moi qui interviens, la Bible ne donne pas la nature du problème. Frères et sœurs, nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, et nous vivons encore avec les imperfections. Pas des imperfections voulues, mais la nature humaine, telle qu'elle est faite, elle a besoin d'une grâce constante. Je sais que nous sommes dans une année électorale avec des propos qui peuvent aller plus loin, ou la haine attisée par des instincts qui parfois sont difficiles à gérer. Malheureusement, parfois même dans les églises, on peut observer ce genre de spectacle. Alors que le but de mon message ce matin, c'est de nous exhorter à comprendre la Bible, la parole de Dieu, nous invite à vivre ensemble. Amen. À vivre ensemble, dans la paix et dans l'harmonie. Parce que le frère ou la sœur qui est présent est un enfant de Dieu au même titre que moi. Je n'ai rien de plus que lui, il n'a rien de plus que moi. Tous, Dieu nous a sauvés. Nous partageons les mêmes promesses, nous lisons la même Bible, nous sommes peuple de ce même Dieu. Et il dit, j'exhorte, j'encourage, je voudrais que chacune de vous soit impliquée pour que la paix soit visible. Nous avons besoin de vivre dans la paix. Vous savez, le conflit, dans un conflit, il n'y a pas de perdant ni de gagnant. Souvent, on a une mauvaise lecture de croire que je suis plus fort, j'exerce ma loi, que cela soit dans le cadre du couple, de la famille, ou même dans le cadre de nos rapports les uns avec les autres. Dans un conflit, il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de gagnants, surtout lorsqu'il s'agit des gens qui vivent ensemble, des gens qui travaillent ensemble. Voilà pourquoi l'apôtre intervient en disant « J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à vivre des communs accords. » Le conflit n'est pas une compétition où l'on entend que l'un gagne et l'autre perde. Raison pour laquelle même par rapport à tout ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui, nous voyons comment la médiation est faite et même les grands pays commencent à insister à dire à force de bombarder ou de s'entretuer, la solution n'est pas là. Il va falloir s'asseoir et trouver une solution. Dans le conflit, surtout au sein de la communauté, nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Par rapport à notre pays, nous avons besoin d'aller de l'avant et de construire, travailler au bonheur de ce grand pays. Amen. Le conflit est comme un volcan. Vous savez, il y a des gens qui vont l'éviter, vont tenter de l'éviter, mais malheureusement, j'aimerais te dire que on ne peut pas éviter un conflit. Le conflit va arriver d'une manière ou d'une autre. Ce qui compte, c'est la capacité et la délicatesse de vouloir le gérer. Il faut gérer un conflit. C'est pour cela que l'apôtre Paul, parlant d'Évodie et de Saint-Tiche, il va dire, je vous encourage à vivre d'un commun accord. D'abord, quels sont, c'est mon premier point, les aspects d'abord négatifs. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des aspects négatifs du conflit. La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, versets 14 et 15, il est écrit, dans Proverbes 6, versets 14 et 15, la perversité est dans son cœur. On parle de cet homme qui aime le conflit, cette femme qui aime le conflit. La Bible dit, il médite constamment le mal. Il provoque des conflits. Verset 15, c'est pourquoi la ruine le surprendra soudain. Tout d'un coup, il sera brisé sans remède. Proverbe 28, versets 25 à 26 nous dit, l'homme trop ambitieux pousse au conflit. Vous savez, il y a des gens qui nourrissent cela, qui aiment ces choses. Ils sont prêts à créer un conflit même là où il n'y a pas lieu d'être. La Bible dit, mais celui qui se confie en l'Éternel et qui sera comblé. Verset 28, celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Encore Proverbe 18, verset 6 à 8, la Bible nous dit, les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups. Vous savez, il y a des gens qui prennent ce malin plaisir à susciter des tensions, des conflits dans l'église, dans la famille, dans le couple, même dans le pays, au travers de propos qui vont attiser soit la haine tribale, soit la détestation gratuite. La Bible dit, la bouche de l'homme stupide provoque sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Je disais que il y a des aspects négatifs et des aspects qui sont prouvés sur les effets néfastes du conflit. Le premier aspect, c'est d'abord le conflit endommage la santé. Et ça, c'est prouvé. Vous avez des gens qui, ayant épousé quelqu'un qui est tout le temps dans un rapport de force et qui, à l'occasion de rien du tout, peut passer du tout au tout. Et vous avez quelqu'un qui était bien et qui commencera progressivement à s'abîmer. Frères et sœurs, sachons que à chaque fois que nous nourrissons le conflit, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de provoquer, de susciter chez l'autre. Vous savez, notre corps porte notre histoire. Si mon histoire est une histoire de conflit, le corps en aura les marques. Et raison pour laquelle, ayant conscience de ce qui se passait dans cette communauté, l'apôtre intervient pour que ces deux femmes réalisent à quel point leur comportement pourrait être un frein à la propagation de l'évangile. Laisse-moi te dire, ma sœur, dans le conflit, tu es en train de démolir, de détruire, d'endommager ta santé. Que ce soit pour toi, époux, que ce soit pour toi, épouse, sachant que le conflit que nous nourrissons, que nous entretenons, n'apportera pas la vie. Au contraire, il apportera beaucoup de souffrance. Deuxième élément, le conflit diminue la créativité, ça on l'a vu. Des gens qui étaient débordants d'idées, d'imagination, entreprenants, et une fois qu'ils sont entrés dans une relation, c'est pour ça qu'il est important de faire le choix des bonnes relations. L'argent, la gloire, le prestige d'une personne ne suffisent pas. Et vous avez des gens qui, étant entrés dans une situation maritale ou relationnelle, vont commencer à s'éteindre à petit feu. Il n'y a plus de créativité. Parce que dans le conflit, on bloque tous les mécanismes du fonctionnement de l'autre. Parce qu'on s'impose, parce qu'on veut écraser, parce qu'on veut avoir raison. Parce qu'on veut dominer, parce qu'on veut prouver. On veut prouver qu'on est fort, on est plus fort, qu'on a les moyens, qu'on a la voix qui tonne, qu'on est meilleur. Le conflit diminue la créativité. On a vu des gens s'éteindre à petit feu. Quelqu'un qui était rayonnant, qui était brillant, qui était intelligent, qui était bien. Et dans un rapport de conflit, son cerveau commençait à céder petit à petit. On peut chasser des démons, on continuera à chasser des démons. Là n'est pas la question des démons. Là est question de simplement comprendre que la vie de l'autre est aussi importante que la mienne. Le bonheur de l'autre vaut autant que le mien. Paul dit, j'exhorte, j'encourage, je vous appelle à travailler de commun accord dans le Seigneur. Le conflit isole et divise. Le conflit divise les gens, divise les peuples, divise les couples, divise les familles. Le conflit isole. Vous savez, il y a des gens qui, peut-être se sentant qu'ils ne sont pas écoutés, ils s'enferment dans le silence. Et cet enfermement dans le silence n'arrange pas la situation. Alors que Dieu nous appelle à nous asseoir et à parler. Ma sœur, mon frère, nous avons besoin d'entendre cette voix de l'apôtre Paul ce matin. Amen. Le conflit instaure la peur et la méfiance. On voit, lorsqu'Adam commet son péché, la première réaction, c'est de fuir Dieu, de se cacher. Il y a de la méfiance. Vous savez, lorsqu'il y a méfiance, il y a difficulté de travailler ensemble dans la sincérité. Et comme conséquence, on verra que ce qui allait de l'avant va prendre un coup, un frein, gratuitement parce que les rapports sont tellement difficiles. Je prie Dieu que ce matin, pendant que cette année se termine, nous sommes au mois de décembre, que Dieu t'aide à te poser, à t'asseoir et à te dire « Je ne peux pas terminer cette année dans un climat comme celui-ci. Je veux qu'on puisse s'asseoir. Je veux que l'on puisse parler. Je veux que l'on puisse régler ce problème. » Amen. Deuxième point ce matin, c'est que les conflits, parfois, ont des aspects positifs. Il n'y a pas seulement les aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs d'un conflit. On peut le voir dans Genèse chapitre 50, verset 20 à 21. La Bible dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux, désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. On sait que Joseph a eu besoin de rappeler, de gérer ce conflit, parce que tant que le conflit n'était pas géré, lui n'était pas guéri. Et eux n'avaient pas réalisé le mal qu'ils ont fait. Alors vous savez, il y a des gens, des spécialistes de... Quand un problème arrive, on éteint le feu vite, et pourtant on n'en pense pas moins. Et tout ce que nous couvons petit à petit deviendra un jour un volcan. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ne disent rien. Le jour où ils ouvrent la bouche, c'est le volcan qui explose. Alors que Dieu ne veut pas qu'on en arrive là. Amen. Sachant que le conflit peut être le révélateur de quelque chose que j'ignore. Il y a des moments, il faut confronter les gens. Il faut les confronter pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut les confronter pour qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer, ou s'ils ne jouent pas leur rôle, il faut que quelqu'un le fasse. Le conflit peut favoriser la maturation. Vous savez, il y a des conflits qui nous aident aussi. Il y a des conflits qui nous aident parce que la maturation passe par le frottement, par les contradictions, par les confrontations, et qui vont petit à petit nous montrer que ce que nous faisons n'est pas toujours peut-être dans la bonne direction. Alors je sais que nous, chrétiens, nous sommes des champions de « cherchons la paix ». Mais la paix, quand on la cherche, il faut la chercher dans la vérité. Amen. Papa, maman, asseyez-vous et parlez calmement. Au lieu d'évacuer un problème qui n'a pas été géré, sachez que tôt ou tard, ce problème reviendra et il va falloir le gérer. L'importance de ce processus dans lequel Paul engage ces deux femmes est important parce que il va les conduire vers la maturité. La maturité qui, au fait, résulte du fait que si nous ne nous asseyons pas pour parler, pour considérer aussi l'intérêt de l'autre, rien ne va se faire qui soit de nature à stabiliser tous les efforts par lesquels nous sommes passés. Troisièmement, il y a des facteurs qui aggravent les conflits, on le sait. Il y en a des gens qui prennent plaisir dans le conflit. Et je l'ai dit tantôt, il faut pas qu'il en soit ainsi parmi les enfants de Dieu, parce que la Bible déclare, dans Proverbe chapitre 16, verset 28, l'homme pervers excite des querelles. Querelles parce que on veut montrer que on sait plus que tel autre, on veut prouver que on a la meilleure voix, on a la meilleure idée, on a la meilleure proposition et petit à petit, on excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Ce qui fait mal souvent, c'est que on va voir certains comportements des chrétiens qui sont pires que des comportements des non-chrétiens. Alors que dimanche, nous sommes à l'église, nous prions, nous chassons les démons, nous parlons en langue, nous célébrons le Dieu Tout-Puissant et au quotidien, nous sommes parfois très loin de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, l'Église a besoin d'être modèle de la société. L'Église a besoin d'avancer avec cette conscience que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes lumière de ce monde. Et le monde doit trouver par notre comportement un modèle à suivre. Ne prends pas plaisir dans le conflit. Vous savez, il y a des gens qui sont psychologiquement comme ça. S'il n'y a pas un conflit, il se sent inexistant. Il se sent mal à l'aise. Alors, il va tout faire pour créer un conflit, parce que c'est son moyen d'exister. Si tu es là, sache que le Seigneur t'appelle à changer cette manière de faire. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui aggrave le conflit? C'est la peur de perdre. Vous savez, n'ayons pas peur de perdre. Ce n'est pas un rapport de force. Je suis l'homme, j'ai déjà dit, c'est comme ça. Non. Je suis ta femme, mais je suis ton vis-à-vis. Jésus nous a gagnés, nous a sauvés parce qu'il a perdu d'après le monde. N'ayons pas peur de perdre. Philippiens nous dit, chapitre 3, versets 7 à 8, c'est Paul qui dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Ah, je prie Dieu qu'avant la fin de cette année, quand tu auras réalisé que la victoire passe par la perte, tu seras quelqu'un que le Seigneur va encore bénir davantage. Il dit, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel, Paul dit, j'ai renoncé. Ma sœur, mon frère, la force ne résout pas tout. Avoir raison ne t'amènera pas toujours plus haut. Tu peux sauver les tiens en acceptant de perdre, en descendant, en portant. Alors, Dieu aura vu tes efforts et il te bénira et il t'amènera plus loin. Ah, un facteur aggravant aussi, c'est le fait de vouloir avoir toujours raison. J'ai raison et tu as tort. Ça ne nous amène nulle part. Tu as raison, j'ai tort et qu'est-ce qui va changer? Tu crois avoir raison, moi je pense que tu as tort, toi tu crois que j'ai tort, toi tu as raison. Au fait, on reste au même endroit. Il n'y a pas de progrès. On ne va pas avancer. Paul dit, Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Dieu n'est pas contre tes propres intérêts. Dieu t'exhorte, oui, tu peux considérer tes propres intérêts, mais pas seulement, considère aussi ceux des autres. Si seulement nous prenions le temps de considérer les intérêts de nos proches, si nous prenions le temps de considérer les intérêts de nos frères et sœurs, nous serons une communauté, nous serons un peuple. Même le Congo, si nous prenions le temps de considérer les intérêts de nos compatriotes, nous verrons qu'il y aura moins de vols, moins de tricheries, et ce pays sera un Eldorado. Je ne pense pas que le bonheur du Congo viendrait de l'extérieur. Le bonheur du Congo viendrait de l'intérieur. Ce que le Congo manque, ce sont les hommes. Le Congo a beaucoup de richesses, mais le Congo n'a pas des hommes. Je crois que les hommes, ils viennent de Dieu. Et c'est nous. Nous sommes lumière de ce monde et nous sommes le sel de la terre. J'accélère en donnant trois choses rapidement Et puis nous allons nous arrêter là. Vous allez remarquer que Paul, dans cette histoire de médiation, au fait ici, l'apôtre Paul est en train de faire une médiation. Il est en train de faire une médiation pour gérer ce problème au sein de cette église. Et dans sa médiation, il va se comporter de manière intéressante. Paul parle personnellement à ces deux femmes. C'est très important. Il s'adresse à elles personnellement. Au fait, nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas progresser si l'autre n'est pas reconnu dans sa personne. Paul les interpelle personnellement. La lettre, il l'adressait à l'église. Mais au lieu de les considérer comme une parenthèse, Paul s'adresse à eux, à elles, pardon. Il leur parle personnellement. Apprenons à considérer la valeur de celui qui est en présence de nous. On va voir que le motif de dissension entre ces deux femmes, Paul ne l'évoque pas. Paul ne l'évoque pas. Parfois, c'est bien. La Bible ne nous dit rien. Et Paul reste silencieux intentionnellement parce que on ne va pas régler un problème en le réveillant. Il faut de l'intelligence, il faut de la discrétion. On sait que la situation est figée, mais ça ne sert à rien de vouloir regarder l'autre comme un sous-homme, quelqu'un qui, dont la vie ne compte pas, ça n'avance pas. Trois choses, je disais. La première chose dans tout conflit, il y a ce qu'on appelle la zone bleue. Ce sont les spécialistes de communication, de psychologie qui nous expliquent. Et ça se montre dans tous les rapports que nous pouvons avoir. Dans un conflit, il y a ce qu'on appelle la zone bleue. Dans la zone bleue, qu'est-ce qui se passe? C'est au fait, quelqu'un, dans un contexte de conflit, il y a des gens qui ne se posent pas à toi en tant que personne. Ils peuvent s'opposer à toi parce que tu touches la structure qui nous permet tous d'être. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. On a Philippiens chapitre 3, versets 15 et 16, Paul dit, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble. Marchons d'un même pas. Apôtre de son statut, père de plusieurs églises, dans la conversation qu'il avait avec ses amis, il dit, j'ai ma position, vous avez probablement votre position, mais ce qui compte, c'est que nous puissions marcher d'un même pas. Amen. Pourquoi détruire l'autre parce qu'il ne pense pas comme toi? Pourquoi l'insulter de tous les mots parce qu'il n'est pas du même avis que toi? Pourquoi veux-tu faire de lui un homme à ton image? Dieu l'a fait à son image. Donc, dans la zone bleue, on voit le bien de la structure. L'apôtre Paul a un jour repris sévèrement l'apôtre Pierre. Il faut savoir que quand Pierre s'est converti, Paul ne l'était pas encore. Il faut savoir que c'est à Pierre que Jésus a laissé la clé comme chef de l'église. Paul n'était même pas encore là. Mais un jour, l'apôtre Pierre va mal se comporter. Et là, son comportement va être vu par Paul comme une sérieuse menace contre la doctrine, contre la vision. Il va dire à Paul, au verset 13 et 14, je lis le verset 14, mais vous pouvez prendre le verset 12, Galates 2, 13 à 14, je lis au verset 14. Il dit, quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des païens, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? En d'autres termes, dans la zone bleue, quelqu'un peut être contre ce que tu fais, mais pas forcément contre toi. Il peut ne pas partager ton avis parce que la structure vaut plus que les hommes. L'intérêt commun doit l'emporter sur les intérêts personnels. Deuxième élément, c'est la zone rouge. Vous avez des gens qui, eux, dans tout conflit, ils parlent avec beaucoup d'émotion. Ils sont débordés d'émotion et dans un contexte où tu ne vois que tes émotions, tu ne permettras pas qu'il y ait un dialogue. Parce qu'à peine on place un mot, toi tu le vis personnellement. Ça devient ton problème, ça devient une histoire personnelle. Alors que les autres ne sont pas là, tout simplement pour suivre ce que tu veux. Et si on applique ces deux applications, ces deux réalités, ces deux concepts à la situation d'Évodie et de Saint-Tiche, on peut se rendre compte peut-être que les deux dames qui travaillaient ensemble, à un moment donné, l'une a voulu ramener les choses sur elle. Ça c'est ma tentative d'explication. Je ne dis pas que c'est la Bible. Mais on peut voir peut-être qu'il y en a une qui voulait prendre les choses pour elle et l'autre qui avait l'intérêt de l'ensemble. Frères et sœurs, nous avons besoin de savoir que tant qu'on est dans la zone de l'émotion, on peut tout abîmer comme Roboam l'a fait. Le fils de Salomon, son père, lui laisse le pouvoir et les anciens viennent le voir. Nous sommes dans 1 Rois chapitre 12, versets 6 à 11. Il lui pose la question de la suite et lui va tourner le dos aux anciens, il va entendre le conseil de ses collègues, de ses camarades, de ses amis, et nous savons comment les choses vont finir. Les choses ont mal fini parce que ce garçon a voulu prendre tout sur le plan personnel et émotionnel. Ce matin, j'aimerais te dire, quelqu'un peut te dire une chose, pas parce qu'il ne t'aime pas, il te dit quelque chose parce qu'il t'aime. Alors même si cela ne rencontre pas tes ententes, lève les yeux et comprends que nous avons besoin d'avancer ensemble. Je termine en disant, c'est le troisième point, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et nous avons besoin que nos yeux soient fixés sur notre Seigneur. C'est ce que Paul dit à ces deux femmes, il dit, j'encourage, j'exhorte Saint-Tiche et Évodie à faire quoi? À vivre en plein accord, où? Dans le Seigneur. Si sur le plan personnel, nous ne sommes pas d'accord, mais au nom de ce Dieu qui nous unit, nous pouvons être d'accord. Si sur le plan de nos intérêts, nous ne parlons pas le même langage, mais le fait que nous soyons fils de Dieu, filles de Dieu, nous pouvons mettre de côté tout ce qui nous différencie et voir les intérêts de Jésus-Christ. Ah, frères et sœurs, nous pouvons rebâtir, nous pouvons reconstruire ce pays en ayant les yeux fixés sur Jésus, en regardant le bonheur que nous pouvons être pour les autres ou donner aux autres du fait que notre foi nous porte vers cela. Mais cela demande d'abord l'humilité, parce que sans elle, on ne peut pas construire solidement. Il le répète dans l'épître aux Philippiens, il dit « ne faites rien par esprit de rivalité ». Il y a tellement de rivalités. Rivalités et des propos parfois que nous pouvons dire et qui deviennent un véritable scandale pour ceux qui les entendent. Il dit que ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. En d'autres termes, nous voulons la solution. Nous sommes appelés à comprendre que si je suis chrétien, je dois voir l'autre comme au-dessus de moi. C'est difficile, hein? Et je n'ai même pas beaucoup d'amen, parce que ça fait mal, parce que c'est difficile. Considérer les autres comme étant haut. Ah, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas facile, je le sais. Vous parlez avec votre femme ou avec votre mari dans une situation de conflit. Première approche, il faut considérer l'autre comme ah. Deuxième chose, l'amour. L'amour, pourquoi? Parce que Paul le dit dans 1 Corinthiens, il dit, l'amour pardonne tout, versets 7 à 8. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Ne vous en faites pas, hein? Le temps viendra où il n'y aura plus de prophétie. Voyez le parler à langue, il va disparaître. Tout cela va changer. Les langues vont cesser. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour demeurera. L'amour demeurera. Nous pouvons nous entendre. Amen. Ne terminons pas cette année comme ça. Ne basculons pas dans la haine tribale, dans des préférences qui ne glorifient pas Dieu. Tout en faisant notre devoir de citoyens, n'oublions pas que nous sommes avant tout citoyens des cieux. Notre monde, c'est auprès de Dieu. Dernière chose, c'est l'unité. Et dans l'unité, pourquoi? Parce que Jésus lui-même a prié pour l'unité. Dans Jean 17, il dit « afin que tous soient un ». Et c'est là que Paul va faire pour que ces deux femmes se remettent ensemble. Peut-être que dans l'église, il y a quelqu'un à qui tu n'adresses pas la parole. Peut-être que vous êtes venus tous les deux, vous avez passé la nuit dans le même lit, mais vous êtes arrivés ici, vous ne vous parlez pas. La Bible dit « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Vous voyez, répétition sur l'unité. « Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alors, s'il y a Évody ici, s'il y a Saint-Tiche ici, Dieu nous appelle à être d'un commun accord dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Nous allons prier. Certainement, Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu a parlé à un couple. Dieu a parlé à des amis. Dieu a parlé à des frères et des sœurs. Dieu a parlé même à d'autres qui sont dehors de cette salle. Ce matin, nous sommes appelés à prendre la Sainte Cène, partager la table du Seigneur. Si vous êtes touché par ce message, vous êtes concerné par cette parole ce matin, nous voulons prier pour vous. Là où vous êtes, vous pouvez tout simplement lever votre main en signe d'humilité. Dans les relations, il y a l'humilité. Merci. Merci. Cela nous aide. On cherche toujours à avoir raison. On cherche à gagner. Mais Jésus est venu perdre pour que toi et moi, nous puissions gagner. Merci pour toutes ces mains levées. Vous qui avez levé vos mains, s'il vous plaît, nous pouvons faire notre pas. Levez-vous là où vous êtes. J'aimerais bien vous voir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de spectacle. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos yeux pour regarder aux autres. Je crois que vous avez besoin de vous lever vous-même. Parce que vous aimez critiquer, vous aimez la médisance, et vous regardez pour encore critiquer. Pour dire, il s'est levé ce matin, mais il est dans ceci, il est dans cela. Tu oublies que toi-même, tu es dedans. Merci. Y a-t-il quelqu'un encore qui aimerait se lever? Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes ici pour devenir meilleurs frères et sœurs. Nous sommes ici pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Merci, Papa Ernest, s'il vous plaît.
Précieux Père Céleste, merci pour ta parole ce matin. Tu nous aimes réellement, Seigneur, parce que tu ne veux pas que nous périssions et que nous vivions en dehors de tes desseins nous concernant. Seigneur, ce matin, tu as vu ces conflits qui couvrent dedans de nous. Ô Éternel, tu as envoyé ta parole.
Oui.
Permets que cette parole qui vient d'être déclamée ce matin déracine toute racine
oui.
de conflit au-dedans de nous. Parce que Seigneur, tu es Shalom. Tu es Shalom. Mm. Le Dieu de paix. Mm. Tu ne veux pas de conflit au milieu de nous. Parce que les conflits nous régressent au lieu de nous faire progresser en toi. Mm-hmm. Guéris nos âmes et permets que l'onction qui est dans cette parole continue son œuvre dans les peuples.
Oui.
Parce que Seigneur, c'est ta parole qui nous guérit.
Ta parole.
Merci.
Merci.
Merci parce que cette parole qui est entendue par le peuple en dehors de ces cadres sauve le pays. Sauve la nation, parce que Seigneur, le conflit ne nous apporteront rien.
Oui.
Et tu as vu et tu as parlé. Bénis cette parole et bénis ton serviteur qui nous vient de loin. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous voulons partager la table du Seigneur.